Ils ont changé le monde. Les vêtements. Ivan Jacob.
Porter des chaussures de rêve, c'est commencer à les réaliser, disait Roger Vivier. Et celles-ci en font rêver plus d'un, histoire des chaussures qui ont conquis le monde, les baskets.
C'est une chaussure de sport avec une semelle en plastique, grosso modo.
Il y a vraiment cette idée d'en faire la paire universelle pour tous les Américains, femmes, hommes, enfants.
Qui est plus confortable que toute autre chaussure avec une semelle en cuir.
Lassage automatique, waouh!
Nous sommes en 1985 sur les parquets brillants de la NBA. Michael Jordan, rookie flamboyant des Chicago Bulls, chausse une paire de baskets interdites par la ligue, les Air Jordan 1, frappées de rouge et noir en violation du règlement sur l'uniforme. Chaque match joué avec ces chaussures vaudra une amende, Nike paiera et transformera l'interdit en coup marketing. Ce n'est plus seulement une chaussure que l'on achète, c'est une attitude, un style, un symbole. Dans les quartiers populaires, la basket devient un langage. Faute d'accès aux lieux de représentation traditionnels, art, mode et politique, les jeunes s'emparent de cet objet du quotidien pour revendiquer identité et appartenance. Les baskets racontent une manière d'exister dans un monde qui vous invisibilise, un outil d'expression pour les laisser pour compte. Si elles sont nées sur les terrains de sport, les baskets s'en sont vite échappées pour gagner les rues, les clips et plus tard les podiums. Elles sont devenues marqueurs sociaux, objets de désir, voire de culte, jusqu'à déclencher des comportements spéculatifs. Alors que tout le monde les porte et que le marché des baskets atteint presque les 100 milliards de dollars, qu'est-ce que ces chaussures racontent de nos obsessions contemporaines ? Aujourd'hui, on parle des baskets et de la façon dont elles ont changé le monde. Et pour délasser cette histoire, deux invités aujourd'hui, Adrien Camarty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur assistant à l'Institut français de la mode, doctorant à Paris 1 Sorbonne. Sur quoi portent vos recherches exactement ?
Sur les discours contre la mode en France sur deux siècles. Et donc voilà, j'essaye de les repérer, mais de les cartographier et aussi d'en comprendre la dimension idéologique.
Ce qu'on appelle l'anti-mode. Elliot Cox, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes designer, vous créez des chaussures. Vous avez longtemps travaillé pour Vuitton, je crois. Vous êtes freelance aujourd'hui ?
Aujourd'hui, freelance, ouais.
Vous travaillez pour plusieurs marques ?
Plusieurs clients, en effet, ouais.
C'est la génération basket. Les chaussures, dans les collèges, ils en sont fous.
Ah, c'est un certain style, une mode, qui vient d'Amérique. Puis tout le monde aime ça aussi, la sophistication des ponts, des chaussures.
J'en ai quatre paires, ouais. Mais il faut savoir se limiter, parce que ça coûte une petite fortune.
Tu sais combien ça coûte ?
Ouais, vers les 580-600.
C'était un reportage du Trésor de France 2 en 1993. J'ai une première question qui s'adresse à tous les deux. À votre avis, pourquoi les baskets déclenchent autant de passion, Elliot Cox ?
Je pense que c'est un des premiers produits qui crée un lien direct entre la star, entre l'idole et le public de cette idole. C'est quelque chose que... J'ai pas trop d'autres produits qui me viennent en tête que... Un gamin de 10 ans peut avoir sur ses pieds de la même manière que Michael Jordan les a sur ses pieds.
Ça s'adresse directement à tout le monde.
Exactement, ouais.
Adrien ?
L'extrait sonore là, qu'on vient d'écouter me semble intéressant pour répondre à la question. Je pense qu'il y a deux grandes choses. Déjà, l'identité des personnes impliquées dans la bande. Donc, ce sont des garçons. Donc, il y a déjà, je pense, une dimension liée à la masculinité aussi. C'est l'une des seules pièces, je pense, qui a été largement investie par les garçons ou les jeunes hommes ou les hommes ensuite. Et après, il y a une idée d'accumulation, une idée de distinction. Et je pense qu'il faut aussi les comprendre comme ça. C'est aussi des objets qu'on accumule et par lesquels on se distingue. C'est la conjonction de ces deux choses, en plus de ce que vient de dire Elliot, de l'identification avec des célébrités, des sportifs.
C'est vrai que c'est un objet de mode que les garçons pouvaient s'accaparer sans être taxés de féminité, en fait.
Exactement. Exactement, je trouve que la dimension masculine est quand même importante pour comprendre la consommation de sneakers et peut-être aussi pourquoi les filles en sont plus exclues. En tout cas, on en a l'impression, même si ça a changé,
ça a beaucoup changé
ces dernières années, mais je pense qu'à l'époque de cette bande, c'était pas tellement le cas.
Au milieu des années 90. Est-ce que je peux vous demander si vous avez une paire préférée, Elliot Cox, un modèle?
La TN de chez Nike.
Pourquoi?
Je sais pas, c'est depuis que je suis petit, elle me fait kiffer, quoi.
Adrien Camarty.
Moi, la Converse Chuck Taylor All-Star. Pourquoi? Parce que je la trouve, sur le plan du design, je la trouve assez parfaite en ce qu'elle est très polyvalente. Et c'est aussi une paire avec laquelle on joue sur l'usure, ce qui n'est pas le cas de toutes les paires. Et peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais parfois on a plutôt l'idée qu'il faut les maintenir très blanches. Avec la Converse, pas du tout.
Et elle a très peu changé. Depuis le début.
Et elle a très peu changé depuis le début, donc voilà.
Justement, on va revenir aux origines. J'aimerais bien déjà qu'on fasse un effort de définition, parce que comment on peut définir une basket? Est-ce que c'est la même chose que des sneakers ou des tennis? Parce que les personnes plus âgées disent souvent des tennis. Est-ce que tout ça, c'est la même chose?
Bon, moi, je mets tout ça dans le même panier, ouais.
Elliot Cox.
Pour le coup, ouais. C'est une chaussure de sport avec une semelle en plastique, grosso modo, qui est plus confortable que toute autre chaussure avec une semelle en cuir. C'est une définition assez simple, je mets tout ça dans le même panier pour sûr.
Adrien Camarty.
Ouais, je suis assez d'accord. Quand on s'intéresse à l'histoire lexicale du terme, on se rend compte que le terme, par exemple, sneaker, il apparaît en 1887 aux États-Unis, qu'il est directement... Enfin, on le trouve aussi avec le terme tennis ou tennis shoes, plus précisément. Et on se rend compte aussi que le terme sneaker et le terme basket en langue française, les deux apparaissent environ dans les années 60, les deux après se multiplient. Qui y renvoie, oui, effectivement, grosso modo, quand même à la même idée, quoi.
Et alors, sneakers, il paraît que ça a été utilisé aussi, parce que sneakers veut dire to sneak, ça veut dire se faufiler sans faire de bruit, et ça a pu être utilisé pour désigner justement des jeunes sur lesquels on projetait des accusations de délinquance parce qu'ils pouvaient se faufiler comme ça dans les maisons sans faire de bruit pour cambrioler, ah ouais, ou des choses comme ça.
Ah, j'adore.
Vous connaissiez pas cette
définition. Je connaissais pas cette histoire.
Comment et quand sont apparues les premières chaussures de sport, Adrien Camarty?
Quand on s'intéresse à l'historiographie, il y a plusieurs hypothèses. En tout cas, toutes ces hypothèses renvoient au 19e siècle. Alors, la première d'entre elles, c'est qu'on la rattache à une entreprise qui s'appelait, une entreprise américaine, qui s'appelait la Candy Rubber Company, pour ses chaussures de croquet, mais on sait pas... Enfin, on n'a pas trouvé vraiment à quoi elle ressemblait, donc c'est compliqué de dire ça. Il y a d'autres théories qui les renvoient à la British Liverpool Rubber Company dans les années 1830 pour des chaussures de plage. Et on a plus de certitude que c'est très lié à la pratique du tennis. Et pour le cas français, ce qui est sûr, c'est que dans les années 1880, on trouve effectivement des termes comme les souliers de lawn tennis.
Donc, tennis sur gazon.
Exactement, pour vous éviter de glisser, surtout quand le gazon est humide.
Ce qui peut arriver en Angleterre.
Voilà, on le trouve dans la presse française dans les années 1880, on trouve des publicités qui nous vendent des chaussures de lawn tennis. Donc ça, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, elles existent, quoi.
En tout cas, vous citez deux compagnies qui ont rubber dans leur nom.
Ouais.
Le caoutchouc, c'est quelque chose de très important, ça, Adrien Camarty?
Oui, dans l'histoire de la sneaker, c'est fondamental. Elliot le disait tout à l'heure, c'est une semaine en plastique, en caoutchouc. Donc c'est lié d'abord à matériaux, à une géographie, à la sève donc d'arbres qu'on retrouve en Amérique centrale, en Amérique du Sud aussi. Grosso modo, les Européens commencent à s'y intéresser au milieu du 18e. On a un Français dans cette histoire qui s'appelle Charles-Marie de la Condamine, qui lui parle du caoutchouc, qui est issu d'un arbre qu'il appelle évé. On se rend compte que déjà, ces populations-là fabriquent des objets, voire imperméabilisent des vêtements, déjà avec ce caoutchouc. Et ensuite, on a un problème à ce moment-là avec le caoutchouc, c'est sa stabilité. C'est-à-dire qu'il peut craquer quand il fait trop froid, il peut fondre quand il fait trop chaud, donc il faut le stabiliser. Et c'est là qu'va intervenir ce qu'on a appelé la vulcanisation, qui est liée à plusieurs découvertes. Celle d'abord de Nathaniel Hayward aux États-Unis. Charles Goodyear va racheter en fait les droits de son invention, ajouter à ça la chaleur, et c'est ce qui va nous donner ce qu'on va appeler ensuite la vulcanisation, qui permet, oui, vraiment d'utiliser cette semelle, quoi.
Charles Goodyear, c'est le monsieur des pneus. C'est le
oui,
même.
Voilà.
Alors, il y a des chaussures de sport qui apparaissent donc au 19e siècle, mais ça reste assez marginal à ce moment-là, Adrien Camarty.
Oui, alors tout dépend des sports, mais effectivement, on peut dire que ça reste marginal dans la mesure où, si on se réfère à certains documents, notamment un ouvrage qui s'appelle Tennis, écrit en fait par un ancien joueur, André Gobert, qui date de 1921, on se rend compte que lui va conseiller plusieurs paires de chaussures pour la pratique du tennis. Il va conseiller je vous les cite, hein, les ultra légers, genre bain de mer en toile. Il va aussi conseiller ceux à semelles de corde, genre espadrilles basques, également en toile. Mais là, on remarque que la semelle est en corde, pas en caoutchouc. Et il va aussi conseiller ceux en toile, en daim blanc, à semelles épaisses de caoutchouc. Donc là, on voit qu'il y a une diversité quand même de paires qu'on peut choisir en fonction aussi de nos moyens, mais effectivement, oui, en tout cas, ça va se diffuser à ce moment-là, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a beaucoup des marques qu'on connaît encore aujourd'hui, comme Gola, New Balance, Superga, qui naissent dès le début du XXe siècle, mais alors elles s'adressent à des sportifs à ce moment-là.
Oui, exactement.
Au début du XXe siècle, il y a un engouement fort pour la pratique sportive. Pourquoi ? Pour quelles raisons ?
On a plusieurs facteurs. On a déjà de grands événements sportifs qui vont être aussi de plus en plus médiatisés, de plus en plus populaires. Fin 19e, on a effectivement la réintroduction des JO en 1894. On va avoir les grands tours cyclistes aussi qui vont se créer à peu près à ce moment-là. Le Tour de France 1903, le Giron en Italie 1909. On a la Coupe du Monde de football en 1930. Donc des grands événements. On a une attention peut-être plus marquée des populations pour la pratique individuelle du sport. Quand on regarde, là encore, les chiffres, durant la période de l'entre-deux-guerres, on passe d'un million de membres de clubs sportifs à 4 millions en 1939. Donc c'est un moment là où la population, effectivement, s'intéresse au sport. Et après, peut-être qu'on a l'éducation, les programmes éducatifs, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis, avec la YMCA, qui va participer, si on veut, à la création du basketball. Et en France, c'est un peu moins important, mais quand même, on a des clubs de sport étudiants, etc. Donc je pense que c'est pour toutes ces raisons que ça se démocratise.
Et du coup, pour cette pratique sportive, on va avoir besoin d'un nouveau vestiaire de mode,
exactement.
Et de vêtements et de chaussures. Et ce vestiaire-là va influencer la mode
oui.
quotidienne.
Oui, exactement. Exactement.
C'est le cas pour le vélo, c'est le cas pour qui va habituer l'œil au premier ouais. pantalon, etc. À partir des années 30, le temps consacré aux loisirs augmente également. Ça démocratise la pratique sportive. Et les Converse apparaissent en 1917 dans le Massachusetts. Ce sont les premières vraies baskets parce qu'elles sont montantes. Donc il y a une différence là sur la forme de la basket. Adrien Camarty.
Je serais plus nuancé. En fait, on se rend compte que cette forme qui s'articule autour d'une tige haute, d'une toile et d'une semelle en caoutchouc, en vérité, on la retrouve avant. On retrouve, alors c'est pas exactement le design de la Converse, mais on retrouve quand même l'idée de la forme de la Converse dès le tournant du siècle en réalité. Donc je dirais pas que la Converse c'est la première vraie basket, c'est simplement qu'elle c'est celle qu'on va retenir.
Une des raisons pour lesquelles on retient justement les Converse et les Keds dans cette histoire de la basket, c'est qu'apparemment elle s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire qu'au départ les marques vendaient surtout aux sportifs et là on va s'adresser aussi aux femmes, aux enfants.
Oui, ça c'est absolument vrai. Quand vous regardez les publicités de Keds aux États-Unis dans les années 20, il y a vraiment cette idée d'en faire la paire universelle pour tous les Américains, femmes, hommes, enfants, pour les occasions qui requièrent du confort. On trouve ça, en tout cas, dans la rhétorique publicitaire de Keds, on retrouve cette idée de façon très claire dès les années 20. Ouais.
Et les Converse s'associent à Chuck Taylor. Qui est Chuck Taylor et pourquoi cette association si tôt dans le siècle ?
Alors, Chuck Taylor, c'est un joueur, entraîneur de basket. Effectivement, l'histoire va le retenir plutôt pour sa manière de vendre et de s'assurer de la publicité, de la diffusion de cette paire-là. Et c'est pour ça que Converse, ensuite, va lui donner son nom, en fait. Donc, c'est pas le créateur de la paire, hein. On va la renommer ensuite. Voilà, mais ça va être une sorte de VRP, effectivement, pour Converse. Il va participer à la diffusion de Converse. Et plutôt là, auprès de sportifs, quand même.
D'accord, donc il y a quand même déjà un lien entre les sportifs et la prescription en matière de mode et de chaussures.
Oui, ah oui, clairement. C'est clairement.
C'est pas récent.
Non. Et c'est pas. D'ailleurs, c'est pas le seul. Après, on peut noter Jack Purcell aussi, mais pour une marque B.F. Goodrich un peu plus tard. Mais oui, c'est une idée qui est présente déjà. Hein.
Elliot Cox, vous créez des chaussures qui sont destinées à faire du sport ou seulement l'esthétique? Est-ce que l'esthétique domine largement dans vos designs?
Alors, pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment créer une chaussure pour un but sportif. Vuitton, la marque pour laquelle j'ai travaillé ces dernières années, c'était plus axé autour de l'esthétique. Donc, il y a toujours une dimension technique qui se pose dans le design, mais j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec des sportifs pour le moment.
Mais vous faites des baskets et des chaussures de ville ou vraiment uniquement des baskets? Quand on est designer, on se consacre à un domaine?
Alors ça dépend de la marque pour laquelle on travaille. Moi, je fais les deux. J'ai une préférence quand même pour les baskets et j'étais plus assigné aux baskets de mon temps chez Vuitton. Mais oui, ça dépend des maisons d'assignation de ce qu'on fait.
Et est-ce que c'est un marché où la basket domine, y compris dans une marque
oui,
de luxe comme...
largement.
Ouais.
Ah oui, très très largement.
Alors, à partir de quand la basket devient-elle réellement autre chose qu'un simple accessoire sportif, Adrien Camarty? On a évoqué l'histoire rapidement, mais quand est-ce que les gens commencent à les porter dans la rue?
Alors là, il y a un historien de la sneaker qui s'appelle Thomas Turner, un historien anglais, qui lui relève en fait plusieurs témoignages dans les années 20 aux États-Unis. C'est-à-dire que lui va citer notamment le New York Times de 1923, où un journaliste évoque Broadway et il dit déjà que Broadway regorge de looks entre guillemets sportifs, avec des sport shoes, et chez les femmes comme chez les hommes d'ailleurs. Et après, alors un peu plus tard aussi, il parle d'un reportage qui est effectué par le magazine Life en 1937 sur les campus américains. Et là, pareil, il y a cette idée que beaucoup d'étudiants en fait portent des sneakers. Donc on peut dire que déjà, l'entre-deux-guerres, on voit, en tout cas aux États-Unis, on voit que la chaussure de sport a une application civile, qu'elle est portée dans d'autres contextes. Comme nous l'indiquaient les publicités Keds, quoi. Ça a finalement fonctionné, quoi.
Et c'est très en lien avec la jeunesse, vous le soulignez, Adrien Camarty, et ça va exploser dans les années 50, puisque justement, il y a cette jeunesse qui est très importante au cinéma. On sait que James Dean et Elvis Presley portent des baskets. Ça a été un grand vecteur de diffusion de la basket.
Et effectivement, ça aussi, c'est l'hypothèse de certains historiens de dire que le cinéma américain, en tout cas... dans les années 1912 jusqu'à 1940, en fait, a eu un fort impact dans la diffusion du look sportswear. Alors pas forcément de la chaussure de sport, mais du look sportswear, définitivement. Ouais, ouais,
certains. Il y a le jean aussi, le t-shirt, le hoodie.
Oui, oui, oui. Et notamment pour la, notamment chez la femme. Mais oui, c'est en tout cas c'est une idée défendue. Ouais.
Mais c'est la première fois qu'il y a dans ces années 50. Alors vous parlez des années 30 sur les campus, mais à partir des années 50-60, pour la première fois, il y a une mode adolescente qui émerge.
Clairement. Oui, clairement, il y a un nouveau secteur de la mode, un nouveau marché qui émerge, celui de la mode adolescente. Et oui, il y a des cultures alternatives qui vont, à partir de l'après-guerre, s'emparer effectivement des sneakers. Même en France, quand on regarde les photos même qui ont été prises au tabou dans la seconde partie des années 40, on remarque que les danseurs portent des sneakers.
Tabou qui était un club de danse de Saint-Germain-des-Prés.
Effectivement, dont Boris Vian a parlé dans son manuel de Saint-Germain-des-Prés. Et les photos déjà de ce moment-là montrent que certaines personnes en portent. Alors je les ai pas identifiées. En fait, c'est une forme Converse ou Keds. Hein, c'est un.
On n'a pas la marque. On a René Lacoste en France aussi.
Et même. Alors aussi, oui, 100%. Et ça m'a aussi fait penser à Gabriel Chanel, toute la dynamique de comment Chanel a monté sa maison. Au travers de cette logique de emmener le vestiaire masculin et surtout le vestiaire sportif dans le vestiaire féminin. Et c'est intéressant de voir que, en effet, dès les années 20-30, il y a toute cette dynamique qui se met en place, aux États-Unis, en effet, que ce soit avec les campus sportifs, avec peut-être les politiques d'après-guerre, etc. Mais c'est intéressant de voir que même dans le luxe à Paris, en France, il y a aussi cette dynamique de s'inspirer du sport, de mettre le sport tout simplement parce que c'est un vestiaire beaucoup plus confortable.
Bien sûr.
Dans le luxe, les baskets mettront beaucoup plus de temps à arriver, mais il y avait déjà cette dynamique et cette demande même d'une clientèle pour ce genre de vestiaire.
C'est vrai que Chanel crée une ligne sportive dès le milieu des années 20.
Ouais.
Ce qu'on a tendance à oublier. Peut-être même le début des années 20, je ne sais plus si c'est 1921 ou 1924, mais 1921, Adrien Camarty confirme. Est-ce qu'il y a une question de prix aussi? Est-ce que c'est des chaussures qui coûtent un peu moins cher, les baskets, que les chaussures de ville à ce moment-là?
En tout cas, la forme toile est moins chère effectivement que d'autres types de chaussures. Oui. Même si vous regardez, je sais pas, un livre que beaucoup de gens ont lu, Just Kids de Patti Smith, elle parle beaucoup de sa condition de vie à New York à ce moment-là, et on retrouve pas mal de mentions aux Keds, aux Converse. Donc c'est des paires qui sont achetées à ce moment-là par ces gens-là. Qui ne sont pas fortunés.
On voit des baskets au pied de Greta Garbo dans Le Droit d'aimer dès 1929. Ginger Rogers en porte dans L'Homme de 40 ans en 1934. Beaucoup plus tard, dans Power Dressing, Melanie Griffith troque ses Reebok contre des escarpins en arrivant au bureau. Ça entre dans les mœurs aussi comme ça par le cinéma. Tous ceux que j'ai cités, ce sont que des films américains. Il y a toujours eu une plus grande résistance du sportswear en France parce que c'est le pays de l'élégance. Alors même s'il y avait des lignes de sport dès les années 20, comme on l'évoquait, le sportswear est quand même plutôt né aux États-Unis, ou en tout cas a été dynamisé aux États-Unis. Est-ce que c'est aussi, dès ces années 30, 40, 50, une American way of life que les baskets vendent?
Oui, on peut se poser la question, je pense. Oui.
Qu'il y a des marques qui vont accompagner le processus de diffusion des baskets. Il y a bien sûr Adidas et Puma. Adidas qui fabrique les chaussures de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de 1936 et qui s'impose par l'athlétisme.
Oui. Alors, si on est tout à fait exact, c'est pas réellement une Adidas qui porte, puisque Adidas n'a pas vraiment été créé à ce moment-là. Alors là, je vais écorcher le nom de l'entreprise. À cause de mon niveau d'allemand, mais c'est la Gebrüder Tassler Schuhfabrik en 24. Donc voilà, Adidasler crée cette entreprise en 24 avec son frère Rudy, et effectivement ils vont commencer à produire des chaussures de sport. Ils vont commencer dès les JO d'Amsterdam en 28, ils vont poursuivre ensuite, et ils vont effectivement chausser J.C. Owens, qui va gagner 4 médailles d'or sous les yeux d'Hitler, lors des JO de Berlin en 1936. Donc ce qui se passe pour Adidas, c'est que à l'après-guerre, en 48 plus exactement, les frères vont se séparer. Ça va donner deux marques, donc la marque Puma déjà, puis la marque Adidas. Et Adidas, effectivement, va être assez... c'est une marque très active sur le secteur du football.
Ils sont en partenariat avec l'équipe nationale?
Oui, d'Allemagne, effectivement. Ils vont créer aussi les premiers crampons en caoutchouc. En 49, ils vont créer la Samba aussi, qu'on a vu aussi beaucoup. Alors, elle ne ressemblait pas à ça à ce moment-là, mais ils créent la...
Qui est revenue aussi beaucoup, voilà, la Samba,
Donc en 49. Et ils vont aussi, effectivement, chausser l'équipe de football allemande, là en 54. Et dans la presse, on pense effectivement que la chaussure Adidas a participé aussi au succès de l'équipe allemande. Donc la marque, effectivement, va en bénéficier, quoi.
Intéressant de noter cette partie innovation. Elliott Cox, c'est quelque chose qui est toujours très important quand on fait de la basket aujourd'hui, parce qu'il y a eu une longue histoire d'innovation qui jalonne cette histoire de la basket.
C'est quelque chose qui est important, ouais. Il y a vraiment une forme de course à l'innovation. Tout le monde cherche toujours à avoir la dernière technologie en date, celle qui arrivera demain sur le marché, essayer de trouver le fournisseur qui va avoir la foam, la mousse la plus souple, qui a le meilleur rebond. Après, encore une fois, ça dépend de la fonctionnalité qu'on cherche à avoir dans le produit qu'on dessine ou qu'on développe. Mais oui, il y a toujours une recherche à l'innovation, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la recherche et du développement et qui viennent vous proposer des nouvelles
Exactement,
techniques.
Exactement. Ouais. On a des départements de recherche et de développement dans les sociétés. Et il y a aussi tous les développeurs et toutes les usines qui développent ces techniques-là, qui démarchent constamment aussi des nouveaux clients potentiels.
On parlait de Puma, Adrien Camarty. Puma s'est aussi imposé par ses partenariats avec des stars du football comme Pelé, Maradona. Est-ce que à partir de ce moment-là, c'est devenu une nécessité pour vendre des baskets de s'associer à des sportifs?
Oui, ça va être une pratique très courante. Puma, surtout, sur le plan de la sneakers, va surtout être retenu pour sa collaboration, son partenariat avec un joueur de basket qui s'appelle Walt Frazier, qui est surnommé Clyde, et ça va donner en fait la Puma Clyde en 1972. Et ce qui est intéressant avec Walt Frazier, c'est que déjà à ce moment-là, il est très connu pour son style sur le terrain, où il décore, il met ses chaussures aux couleurs des Knicks, mais aussi en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui va parler de ça aussi, et Puma va beaucoup jouer de ça pour créer puis vendre une paire, alors effectivement qui est utile à la pratique du basketball, mais pas seulement, qui peut être aussi appropriée par des populations dans un contexte civil. Donc en tout cas, les partenariats avec les sportifs effectivement vont être importants, et de plus en plus, on va avoir des paires au nom des sportifs. Des partenariats, parfois plus épisodiques, parfois plus longs. Je pense qu'on parlera de Michael Jordan. Mais oui, effectivement, je dirais qu'à partir, milieu des années 60, années 70 plus tôt, ça va commencer à être de plus en plus important.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous le soulignez, on commence déjà à penser à une esthétique au moins autant qu'au confort ou à la pratique sportive, Adrien Camus.
Oui, dans les Puma Clyde, effectivement, au début du partenariat, en fait, Walt Frazier est assez critique vis-à-vis des paires qu'on lui donne. Il les trouve trop lourdes, etc. Progressivement, on va s'intéresser à l'aspect esthétique. Au début, c'est peut-être par des jeux de couleurs simplement, et après, ça va prendre d'autres formes. Mais oui, de plus en plus.
Et après les marques européennes, une marque américaine va tout changer.
Nous sommes en 1972. Phil Knight vendait jusqu'alors des paires de chaussures de sport japonaises. Mais il veut créer sa propre marque et Caroline est chargée d'imaginer un logo.
Je n'ai vraiment pas eu l'inspiration divine. L'idée m'est venue après de nombreuses heures passées sur ma table à dessin, en essayant de trouver quelque chose qui évoquait le mouvement et la vitesse. Et c'est venu un jour alors que je griffonnais.
Son dessin, elle le vend à Phil Knight pour 200 francs.
Les gens m'ont demandé, mais pourquoi n'as-tu pas gardé les droits de reproduction ? Je leur ai répondu que, premièrement, je n'y avais pas pensé, et que deuxièmement, Phil Knight est très fort en business. Il n'aurait jamais fait cela.
La marque Nike vient de naître.
Ils ont changé le monde. Ivan Jacob.
C'était un reportage d'Envoyé spécial diffusé sur France 2 en 1997. 200 francs, c'est pas cher payé pour le logo de Nike. Adrien Camarty, qu'est-ce que Nike apporte de différent à partir des années 1970 ?
Nike, au départ, je pense qu'effectivement, c'est une entreprise qui est créée en 1972. Par Phil Knight, aussi par Bill Bowerman, donc un entraîneur d'athlétisme là, ce qui va fournir quand même les premières formes Nike. C'est un contexte aussi de pratique grandissante du jogging ou de la course à pied. Donc c'est dans ce contexte que Nike s'inscrit. À mon avis, il y a deux choses importantes. Alors l'élément marketing là qu'on vient d'entendre, donc ce swoosh qui est créé.
Swoosh, c'est le logo de Nike.
Oui, c'est ça. Donc la virgule Nike. Et après, effectivement, Nike va être beaucoup commenté au départ pour la légèreté des semelles créées. Donc sur la Cortez ou plutôt sur la Waffle. Donc ça va être à mon avis les deux premiers piliers de la première partie de l'histoire de Nike.
La Waffle, c'est une semelle gaufrée qui apporte une innovation technique. Peut-être que Elliot Cox peut nous en dire plus.
Innovation technique, je sais pas vraiment, mais je sais que pour l'histoire est assez drôle. C'est simplement ils ont pris littéralement une machine à gaufres, ils ont mis du caoutchouc à l'intérieur, ils ont écrasé la machine, ils ont sorti les galettes, ils l'ont coupé, ils ont fait une semelle, quoi.
Incroyable, cet épisode du moule à gaufre. Alors, le vrai tournant pour Nike, c'est en 1984 avec la Air Jordan. Pourquoi ce modèle a-t-il autant marqué les esprits ? Est-ce que c'est uniquement à cause de Michael Jordan, Adrien Camarty ?
Il y a plusieurs raisons au succès des premières Jordan. Je pense qu'effectivement, il y a l'élément, la personne Michael Jordan, que Nike va parvenir à signer en concurrence avec Adidas, en lui offrant des conditions assez intéressantes, notamment la création d'une ligne, et d'une ligne qui va être sur le long terme. Et ça, c'est à mon avis la première fois où on voit ça dans l'histoire de la sneakers, en tout cas un partenariat aussi long, et la création d'une marque quasiment indépendante. Il y a un sportif qu'on prend jeune, qui va être exceptionnel, qui va être ensuite, bon, il y a plein de débats là-dessus, mais l'un des plus grands. Donc oui, le sportif, une stratégie marketing intéressante, notamment sur la Jordan 1, ouais, que vous avez évoqué tout à l'heure, toute cette histoire d'uniformisation, enfin d'uniforme, et le fait qu'on aille contre ça avec des couleurs qui ne sont pas vues à ce moment-là sur les parquets de NBA.
C'est-à-dire qu'elle est interdite, mais Nike va profiter de cette interdiction pour faire de la publicité.
Mmh. Exactement, donc un marketing quand même assez intéressant, un design prenant de plus en plus en compte l'aspect civil, l'application civile. Ça, c'est notamment vrai pour les Jordan 3 qui sont designés par Tinker Hatfield qui à ce moment-là fait aussi la Air Max, enfin qui a fait de nombreux Air Max. Et lui, en parle aussi que directement dans le design de la Jordan 3, il prend en compte l'aspect civil. C'est pas que faire une chaussure pour les parquets, c'est aussi faire une chaussure qui soit vendable pour tout le monde. Donc directement. Et après, moi, je dirais qu'il y a une dernière raison, il y a un processus. Je ne sais pas comment on pourrait appeler d'artification ou de culturalisation, très lié au départ, à mon avis, à la figure de Spike Lee, qui est embauché pour les campagnes, qui va aussi les mettre en avant dans certains de ses films, notamment Do the Right Thing. Et donc aussi, tout ça va participer, à mon avis, à créer ce mythe Jordan qui va après perdurer jusqu'à aujourd'hui. Quoi.
C'est-à-dire que c'est plus seulement une basket, mais ça devient un objet de désir qui s'attache à tous les aspects de la vie, de la société, le sport, mais aussi le cinéma.
Clairement, le hip-hop aussi, bien sûr. Oui, c'est exactement ça.
J'en profite pour vous demander, Elliot Cox, les coussins d'air, ça apporte vraiment quelque chose ou c'est du marketing?
Ça apporte vraiment quelque chose, oui.
C'est-à-dire de la légèreté, du confort.
Du rebond, oui.
Du rebond pour sauter. Vous parliez, Adrien Camarty, du hip-hop. Quel rôle a joué la culture hip-hop dans l'appropriation de la basket comme symbole? C'est énorme.
Oui, c'est assez énorme. Je pense que c'est la première culture ou contre-culture qui est à ce point lié à la sneakers. On retrouve des traces de sneakers avant dans le punk, etc. Mais c'est pas à ce point-là. Là, c'est quand même le pilier principal, en fait, du look. Et on va avoir une culture aussi qui va s'approprier beaucoup de paires, au départ, surtout à New York. Et on va avoir plein de marques, de la Converse, de la Procats aussi, progressivement de la Adidas, puis de la Nike, et on va avoir aussi une évolution propre à la scène new-yorkaise, notamment liée au hip-hop. Pourquoi? Alors on pourrait se demander pourquoi le hip-hop surtout s'intéresse à la...
C'est ça, pas pour le basket. Mouvement, la danse
Oui, à mon avis, il y a ça. À mon avis, il y a cette idée aussi que... Quand même que c'est un sport, à mon sens, de plus en plus afro-américain à ce moment-là. Donc il y a une affinité entre le hip-hop et le basket. Et je pense qu'il y a une raison utilitaire. Le hip-hop, on a la danse, on a le b-boying, donc il faut des paires plutôt utilitaires. Et je pense qu'après, il y a un élément de distinction aussi. Tout le monde porte de la sneaker, mais dans ce champ de la sneaker, on peut en porter plusieurs, on peut se distinguer. Donc à mon avis, il y a un élément très, très distinctif, un rapport à la compétition, à avoir la plus belle paire.
Mais c'est très afro-américain à ce moment-là, puisque Michael Jordan est invité à un night show et on lui demande quel est le problème avec ses chaussures qui sont donc noires et rouges. Et dans le règlement de la ligue, il faut qu'il y ait du blanc, je crois, dans la chaussure. Et donc il répond, il n'y a pas de blanc dans cette chaussure. Ouais. Et le présentateur lui rétorque, mais sur les parquets non plus. Ouais. Alors Adidas, vous en parliez, c'est devenu une marque si importante que Run DMC en a fait un hymne.
Yo, what's up Adidas? I'm Jam Master Jay. DJ Run, and my name is DMC, and this is my man Hurricane from around the way, you know what I say? Hollis, Queens, that is.
Word up, and we always rock our Adidas on our feet with no shoestrings
in them.
I did not
win them.
I bought them off the app with the
Levi denim.
I like to
sport them.
That's why I
brought them.
A sucker tried to steal them, so I
caught them
and I
fought them.
Then I walked down the
street
and bopped to the
beat
with Lee on my
leg
and Adidas on my
feet.
And yo, now I'm just standing here shooting the gift. Me and D
and my Adidas standing on 2/5. My Adidas. Adidas can never even buy this much promotion we give them. I reckon it's number what?
10 with a bullet on the black charts.
10 with a bullet on the black charts. 27 on the pop charts.
What does it say?
Zoom in.
My Adidas.
On a charge for 6 weeks.
You know what a bullet means? That it's going to the top. So give us $1 million.
Give us $1 million. On entendait Daryl McDaniels, DMC du groupe Run DMC, dans un extrait du documentaire Sneakers, le culte des baskets, réalisé en 2006 par Lisa Léoné et Thibaut de Longeville. Et cette archive exclusive incroyable qui est diffusée dans ce documentaire, le message envoyé à Adidas en 1986 par le groupe Run DMC, où l'on apprend que c'est eux qui ont demandé de l'argent à Adidas. Adrien Camarty, est-ce que les marques ont tout de suite compris le pouvoir culturel des sneakers, ou elles ont d'abord largement ignoré ce mouvement ?
J'aurais une réponse entre les deux. Je pense qu'elles ont mis un peu de temps, pas trop de temps non plus. Elles ont mis un peu de temps et elles l'ont très vite compris. Et effectivement, le cas Run DMC exemplifie ça. Effectivement, là, on a une chanson qui s'appelle My Adidas en 86. Et après, donc, l'histoire dit effectivement que le groupe va demander à la foule de les brandir lors d'un concert au Madison Square Garden devant les équipes d'Adidas, qui va pousser les équipes d'Adidas à comprendre le potentiel commercial d'un partenariat. Et oui, donc ça marque en tout cas un moment où effectivement, où les marques prennent conscience du phénomène. Et là, on est en 86, Jordan, c'est en 84. Donc on voit que ça, oui, le milieu des années 80 est important pour ça. On est sur 2 ans, là, on a quand même 2 exemples de cette prise de conscience.
Et à partir de là, est-ce que pour les gens qui portent des baskets, ça devient un choix identitaire d'appartenance ? Est-ce qu'on choisit Adidas plutôt que Nike pour des raisons diverses et variées ?
Je pense qu'il y a le point culturel qui est intéressant, c'est que tout ça s'ancre dans la naissance de la culture du streetwear. Et ce que je trouve chambé dans la culture du streetwear, c'est ce truc de chacun va composer son look avec les éléments qu'il trouve, avec les éléments qui lui parlent. Ça va être un t-shirt de groupe, donc quels sont les bands qui font partie de ma personnalité, quelles sont les chaussures qui font partie de ma personnalité. Donc ça veut dire choisir par exemple une paire de Adidas, ça peut envoyer un message de « je suis plus Run DMC » par exemple, mais si tu t'envoies, je sais pas, une paire de Fila, ça veut dire que potentiellement t'es plus avec Tupac. C'est ça qui est intéressant justement, je pense, dans la manière dont la culture streetwear s'est appropriée cet objet qu'est la basket, c'est comment ça a pu servir les styles de chacun au même titre qu'un t-shirt, qu'un sweat, qu'une veste, etc. Donc dans ce sens-là, oui, il y a presque une forme de revendication.
Mais alors, ils se sont appropriés les jeunes des quartiers populaires. On parle de New York, c'est beaucoup New York que ça se passe à ce moment-là, mais davantage les baskets peut-être que le reste du vestiaire. C'était, quand on regarde les archives, on voit qu'il y a quelque chose de très fort, de très sentimental vis-à-vis des chaussures. Pourquoi c'est plus fort que le reste ?
Peut-être parce que c'est un peu plus cher aussi. C'est abordable, mais ça reste aussi ça reste plus cher qu'un sweat, ça reste plus cher qu'un t-shirt, voire même qu'une veste. Donc je pense qu'il y a, cette dimension d'objet aussi. Comme on disait un peu plus tôt, il y a ce truc où ta basket, tu la poses sur la table, elle a la même tronche que quand tu l'as sur ton pied, quoi. Donc, je sais pas, moi je sais que...
Ça peut être un objet de décoration.
Depuis que je suis gamin, à chaque fois que je m'achète une nouvelle paire de chaussures, je la mate pendant des heures, quoi. Et ça m'arrive encore aujourd'hui.
Adrien Camarty.
Ouais, non, mais le je trouve que le prix est intéressant. On est déjà sur un marché inflationniste, donc ça devient une logique de distinction aussi, montrer qu'on peut se payer cette paire-là. Oui, mais la dimension objet évoquée par Elliot me semble assez intéressante, et je pense que parfois on se dit effectivement que certains sneakers sont plus belles sur étagère qu'à nos pieds. Ça arrive.
J'en ai 2-3 comme ça.
Voilà. Et ouais, ça peut être un objet de décoration. Mais...
Plus que des marques ou des prix, c'est tout un système de référence culturelle qui se met en place. Nous autres, qui avons inventé cette incroyable culture autour des baskets, avons tous grandi sans le sou. Du coup, on entretenait soigneusement nos baskets. C'est devenu une culture en soi. On se baladait avec des brosses, on lavait nos baskets à la machine, on colorait les bandes pour leur donner une nouvelle vie. Il fallait avoir en permanence des baskets impeccables, mais on ne pouvait pas en racheter tout le temps. Une fois qu'elles sont nettoyées, je leur mets des gros lacets. Sinon, c'est comme un revolver sans les balles. Les lacets font ressortir les baskets. Autrefois, les jeunes n'avaient pas beaucoup d'argent. Si tu n'avais qu'une seule paire de baskets, ce sont les lacets qui te permettaient d'être créatif. Il faut laver tes lacets tant qu'ils sont encore blancs. Tu ne peux pas attendre que tes œillets fassent des marques. Tu prends les lacets et tu les frottes à la main. Après les avoir bien rassés, moi je les pince entre mes doigts et je tire comme ça pour les essorer. Puis je les mets dans une serviette et je tire la serviette en serrant bien. Avec un Kangol Bordeaux, tu ne mettais pas de lacets blancs. Il te fallait des lacets Bordeaux assortis au Kangol. C'était des accessoires essentiels. Il y avait aussi un côté provoque. Ces gros lacets existaient en taille moyenne et en taille super large. Sans ces accessoires, tes baskets ne valaient rien. Comme un chili sans haricots. Il fallait des lacets stylés et assortis. Quand je trouvais pas de gros lacets, je prenais mon fer à repasser et avec la pointe, je les élargissais tant qu'ils étaient encore mouillés. Ensuite, je tirais sur les côtés pour les élargir un peu plus. Puis, je laissais le fer chaud dessus et ça les aplatissait.
Ivan Jacob.
Comme un chili sans haricots, comme un revolver sans balles. On entendait dans cet extrait notamment Jamel Shahbaz, qui est un photographe culte du Brooklyn des années 80. C'est un autre extrait du documentaire réalisé par Lisa Léoné et Thibault de Longeville. On entend toutes les précautions que prennent les jeunes, enfin, qui étaient jeunes à l'époque, hein, quand ils racontent ça dans cette archive. Tout ce qui est fait pour maintenir sa paire propre, les lacets, comment les assortir, etc. Et on a l'impression que les baskets créent un terrain de jeu parallèle avec leur propre codes, les codes des cultures populaires racisées, urbaines, qui sont pas reconnus ou pas très représentés dans la mode à ce moment-là, Adrien Camarty.
Exactement, et qui sont pas parfois compris par certaines populations. Et là aussi, je renvoie à ce film de Spike Lee, Do the Right Thing. Il y a une scène intéressante, puisqu'on a en fait, on a l'un des protagonistes du film qui marche, donc avec sa paire de Jordan, et donc on est à Brooklyn, quartier noir, et donc un blanc le rentre dedans, et il se trouve qu'il s'aligne en fait sa paire et donc là s'ensuit une dispute entre les deux et on voit que effectivement l'homme blanc ne comprend absolument pas où est le problème et le problème en fait c'est qu'il a sali ses chaussures et il y a une sorte d'incompréhension totale entre les deux. Voilà, et pour lui ça peut pas être un motif en fait de dispute alors que pour le porteur de Jordan bien sûr que si. Effectivement, il y a tout un système de codes qui est pas compris et c'est aussi un espace de créativité, j'ai l'impression, et donc c'est intéressant parce que là on a quand même des populations qui vont s'approprier des chaussures qui souvent effectivement sont produites quand même par des grands acteurs, des grandes entreprises, des grands acteurs, mais néanmoins ils vont créer cet espace de négociation avec l'offre des grandes marques, ils vont se les approprier, etc.
C'est intéressant parce que on voit que ces grandes marques font pas quand même complètement partie du système de la mode traditionnelle, la couture, même si la couture dans les années 80 est déjà assez moribonde, mais la mode est encore largement perçue à ce moment-là comme élitiste, bourgeoise. Elliot Cox, ça a changé ça, mais à ce moment-là, c'est ça.
Je dirais que, en vrai, je sais que quand j'écoute ma mère, par exemple, ou même mon père qui me raconte leur jeunesse dans les années 60, 70, il y avait déjà des mode populaire. La mode était déjà présente. Il y avait les mods, les rockers à Londres, par exemple. Après, il y a les skaters qui sont arrivés, etc. Mais c'est vrai, la mode, comme on l'entend, le monde du luxe, etc. Oui, il y avait pas de lien encore entre les sneakers ou le streetwear même et le monde du luxe, quoi. Mais la mode, je dirais, ouais, la mode a quand même toujours existé dans les classes populaires, quand même.
Et si ça n'existe pas beaucoup en lien avec l'industrie du luxe, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, il y a encore beaucoup de préjugés face au basket.
Lundi matin, Nicolas et sa petite sœur prennent le chemin de l'école pour se rendre au collège Henri IV, établissement public très coté à Bergerac. Nicolas porte un t-shirt, un jean et des tennis, jusque-là rien de bien grave, si ce n'est qu'aujourd'hui, à cause de ses chaussures, il ne pourra pas assister à ses cours. Au collège Henri IV, le port des tennis est interdit en dehors des cours de sport. Nicolas avait déjà personnellement été mis en garde, mais bien à l'aise dans ses baskets, il n'a pas voulu céder.
Le principal adjoint qui voulait me faire téléphoner à mes parents,
Alors j'ai estimé que c'était pas à moi d'appeler, donc j'ai refusé. Et à partir de ce moment-là, il m'a envoyé chez le principal, et qui m'a fait une offre de 200 francs pour m'acheter des tennis. Des chaussures de ville, pardon.
Oui, plutôt. Mais dans tout ça, les parents de Nicolas, surpris de ne pas avoir été prévenus avant par le collège, ont aussitôt pris la défense de leur fils.
Que je suis responsable, que je suis éducateur de mes enfants, et qu'à ce titre-là, j'ai le droit de souhaiter qu'ils soient vêtus d'une certaine manière. Et je n'entends pas que le principal et son conseil d'administration décident de la façon dont on habille nos enfants.
Depuis hier, après intervention des parents d'élèves et de l'inspection académique, Nicolas, toujours avec ses tennis, a intégré sa classe. Lundi, la commission permanente de l'établissement devra disserter sur ce point de règlement. En attendant, dans la rue, on est un peu surpris par la sanction. Une paire de tennis, ça n'a jamais été indécent.
Mais la mienne, regardez comment elle va en cours. Avec des tennis.
Des tennis, ouais. Cool.
Ouais, c'est une tenue qui te plaît, ça. C'est une tenue correcte.
Ben oui. Ça sert à rien de s'habiller, on s'habille comme on veut.
Je trouve ça complètement nul, c'est débile d'interdire quelque chose alors que c'est une tenue normale.
Ça fait plutôt collège privé.
Le conseil d'administration du collège devra se réunir vendredi prochain pour décider si, oui ou non, le port des tennis constitue une tenue correcte.
Ça fait plutôt collège privé, j'adore cette remarque. C'était un reportage de France 3 en 1994. Elliot Cox, comme toutes les modes qui sont favorisées par des communautés racisées, en l'occurrence plutôt les Noirs du Queens de New York, etc., il y a eu un dénigrement des baskets dans le sens où c'était associé à de la délinquance ou en tout cas pas reconnu comme une mode formelle.
Par rapport aux baskets, oui. Après, c'est intéressant d'observer que c'est drôle. Je sais que mon père, dans les années 70, avait déjà des histoires comme ça avec le fait qu'il venait à l'école avec des cheveux longs. C'est plus... C'est intéressant de voir qu'en effet, dans les années 90, peut-être fin 80 déjà, c'est la place que les baskets et le streetwear avaient pris. C'était le truc des jeunes de quartiers populaires. Comme dans les années 70, c'était peut-être plus les hippies ou les rockers, quoi.
Il y a un truc que je trouve intéressant, il y a un poème qui s'appelle « Phelan Sneakers », je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui a été écrit par un docteur noir qui vient du Queens et qui demande aux jeunes noirs de quitter le look racaille, si on résume, c'est à peu près son propos. Il dit « Si vous vous habillez comme ça, personne ne vous donnera du travail ». Et c'est aussi en réaction à cet écrit que Run DMC sort « My Adidas » pour expliquer que le look ne fait pas la valeur de l'individu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît commun des baskets, mais... Pendant un moment, c'était pour le loisir, en fait.
C'est vrai, ouais. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'encore aujourd'hui, il y a certaines tenues vestimentaires qui peuvent être, dans certains milieux, jugées comme non conformes. Ou...
Peut-être de moins en moins, c'est ce que le streetwear a apporté.
C'est ce que le streetwear a apporté, et de moins en moins, ça dépend dans quel milieu. Je vois, même moi, en bossant chez Vuitton, il y a certains étages, dépendant du département dans lequel on bosse... Moi, j'arrivais avec mon short tout défoncé, mes baskets flinguées et mon gros sweat à la compta. Je peux vous dire qu'à la compta, ils n'avaient pas le même look.
J'étais sûr que c'était la compta.
Ouais, bon, ça peut aller au juridique aussi, c'est le même genre de truc.
Quand commence-t-on à avoir des baskets sur les podiums des défilés, Adrien Camarty?
À mon avis, c'est la décennie 90 qui va être importante dans cette histoire. On va voir succéder de multiples paires sur les défilés. Alors, on peut en citer plusieurs. Chanel, dès l'été 92, on a une sorte de paire de sneakers à talons par Karl Lagerfeld. On a Julie Bett aussi, qu'on oublie parfois dans l'histoire de la mode, mais qui fait quand même une collaboration très, très précoce, donc avec Puma pour l'été, le printemps-été 95. On a aussi donc des paires Puma, Julie Bett. Après, on va avoir Gautier pour l'hiver 97-98, pareil. Donc, à mon avis, oui, c'est dans la décennie 90. Et après, le mouvement va effectivement prendre de l'ampleur. Les collaborations aussi vont se succéder. Les grandes marques de mode, de luxe vont incorporer aussi des lignes de sneakers et la collaboration va me sembler intéressante, notamment quand on prend Adidas, on va avoir de multiples créations, parfois sur collaboration, parfois sur de nombreuses années, de nombreuses paires. On va avoir la création d'Y3, notamment en 2002, Jeremy Scott qui va collaborer avec eux. Plus tard, on a Raf Simons, on a Rick Owens, etc. Donc, à mon avis, oui, c'est à partir des années 90 et après, ça s'amplifie avec des formes nouvelles, des partenariats.
Kanye West aussi, très important.
Oui, Kanye West, oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui change entre ces années 2000 où la basket reste un petit peu marginale et aujourd'hui où elle est omniprésente dans le luxe? Elliot Cox.
Je pense que c'est l'accession au poste de directeur artistique de personnes qui comprennent la culture streetwear. Et simplement, dans les années 90, peut-être qu'ils étaient encore trop jeunes pour prétendre à ce genre de position. Dans les années 2000, certains créateurs commencent à avoir ces opportunités-là. Je pense qu'il y a aussi l'aspect économique et business qui est qu'au début des années 2000, c'est intéressant de voir justement la manière dont les gros groupes de luxe commencent à articuler leur maison, de quelle manière ils commencent à nommer leur directeur artistique, quels sont les budgets qu'ils mettent dans les développements des collections. Il y a vraiment une recherche de la part des groupes de luxe au début des années 2000, de démocratiser dans un sens beaucoup plus le luxe, de le rendre beaucoup plus attrayant pour un grand public et plus simplement pour une niche de personnes extrêmement fortunées qui va venir au défilé passer sa commande.
Virgil Abloh est une personne très importante.
Lui, il a joué un gros rôle, en effet, dans la démocratisation des sneakers, ça c'est sûr. Mais c'est pas le seul, c'est pas le premier. Le fait qu'il ait été nommé chez Vuitton a beaucoup joué là-dedans, c'est sûr, a beaucoup pesé dans la balance. Mais comme tu le disais juste avant, Kanye avait déjà fait une collaboration avec Vuitton et justement avait fait la première paire de baskets Vuitton, quasi 10 ans avant que Virgil soit nommé.
Ouais, 2009.
Ouais.
Oui, et la collaboration avec Supreme.
Et ensuite, la collaboration avec Supreme, l'année
entre Vuitton et Supreme.
Entre Vuitton et Supreme, oui.
Exactement.
Avec beaucoup de sacs rouges. À l'inverse, pourquoi les marques de streetwear ou les artistes acceptent-ils de collaborer avec ces grandes maisons? Parce qu'on comprend l'intérêt pour les marques de luxe, vous l'expliquiez, Elliot Cox, de se diversifier, de vendre aussi, tout simplement. Mais pour ces gens qui étaient des adeptes de la culture streetwear, pourquoi aller vers le luxe? C'est une reconnaissance?
Je pense qu'il y a une forme de reconnaissance, ouais, pour sûr. Se dire qu'on a réussi à faire vivre et grandir notre culture au point où maintenant elle est reconnue, entre guillemets, à la plus haute échelle, qui est le domaine du luxe. Il y a forcément une forme de fierté et de reconnaissance. Et après, je pense, dépendant des créateurs, ayant eu la chance de bosser avec Virgil quelques années, il avait, je pense, de ce que moi j'en ai perçu, le but aussi de se servir du luxe aussi comme d'un véhicule pour toucher aussi de nouvelles catégories de personnes qui ne se seraient pas forcément intéressées à sa culture si c'était pas au travers du prisme Louis Vuitton, par exemple.
Du coup, pour vous, ça sonne comme un respect mutuel, parce que pour certaines personnes, c'est une appropriation culturelle quasiment, cette appropriation du streetwear.
Je pense que ça dépend du contexte. Comme à chaque fois, ça dépend de la démarche qui est posée derrière. C'est pas le luxe et les autres. Enfin, je veux dire, il y a un truc de... Ça dépend toujours de quelle manière le business est monté, de quelle manière la collaboration s'établit. Est-ce que oui, en effet, c'est juste un businessman qui cherche à se faire un logo par une stagiaire et la payer 20$. Bon, c'est une dynamique, mais parfois il y a en effet aussi de très belles collaborations de CEO qui se rendent compte que ils ont la bonne personne pour véhiculer le bon message au bon moment, dans le bon contexte, et que ça va et nourrir la maison et nourrir aussi le propos de l'artiste en face.
Adrien ?
Je trouve que quand même, ce qui a aussi changé dans le marché du luxe, de la haute mode, c'est que j'ai quand même l'impression que ces dernières années, on a eu des... Je ne sais pas si c'est des innovations, mais en tout cas, ces marques-là sont responsables de l'apparition de nouvelles formes en termes de design, chose qui était plus compliquée à affirmer avant, où on se contentait plus ou moins de recopier les paires des grands acteurs du marché, du sport. Et effectivement, quand on regarde une maison comme Balenciaga, ce qu'elle a fait, la Triple S bien sûr, mais ce qu'elle a fait aussi, alors par une designeuse qui s'appelle Baini Kian, qui est Head of Design chez eux, sur des modèles comme la Xpander, avec une sorte de talon en ressort, comme la Defender, avec des proportions quand même assez inédites. Je trouve que quand même tous ces acteurs-là, en ce moment, ou ces dernières années, ont quand même participé à l'introduction de nouvelles formes. Et ça aussi, je pense qu'Eliott, tu peux en parler.
Qu'on a appelé les Vuitton, ugly shoes pour la Triple S, je crois.
Oui, exactement. Ouais.
C'est-à-dire les chaussures LED, mais qui cartonnent.
L'exemple de Balenciaga est super intéressant pour ça, la manière dont, de manière générale, ils ont poussé les frontières ailleurs. Et ouais, je te rejoins sur l'idée, enfin sur le fait qu'en effet, le luxe ces dernières années a quand même vachement contribué
de nouvelles propositions de forme, de nouvelles propositions de design, parce que c'est aussi le fait que les maisons de luxe s'inscrivent sur un marché différent et qu'elles présentent aussi surtout d'une manière très différente leurs produits en comparaison avec des grosses marques comme Nike ou Adidas qui vont, pour chaque nouveau produit, monter une campagne, s'associer avec des athlètes, cartonner et marteler tout un truc de image, marketing, etc. C'est intéressant de voir que dans le luxe, ça fonctionne aussi comme ça, évidemment. Mais il y a aussi cette dimension des shows qui va être un grand spectacle. Et donc, on peut s'autoriser beaucoup plus facilement à faire des choses presque importables, ouais, dans le but même de vendre des choses beaucoup plus portables derrière. Donc, c'est intéressant, en effet, en termes de design, de voir comment ça a pu permettre ces dernières années, ouais, l'étude de nouvelles formes, de nouveaux aspects dans ce qu'une basket peut être.
Je vais vous poser une question à laquelle vous allez être obligé de répondre oui, mais est-ce qu'on a tout fait dans la sneakers ou est-ce qu'on peut encore inventer des nouvelles choses ?
Le truc, c'est que pour moi, c'est plus une question de... Même ça s'élargit à la mode de manière générale. Est-ce qu'on va faire une veste avec 3 manches ? Non. Donc dans un sens, oui, on a déjà inventé ce que c'était qu'une veste, on a déjà inventé ce que c'était qu'une chaussure et une basket. Après, est-ce qu'on peut faire de nouvelles choses ? 100%, tous les jours. Genre, si on donne un même brief à 10 personnes, on va avoir 10 résultats différents. Même si le brief, c'est « fais-moi une basket blanche avec une semelle droite ». Donc, oui, on ne va rien réinventer, mais on peut créer plein de nouvelles choses, toujours, tout le temps.
On a l'impression depuis plusieurs années d'assister à l'apogée du streetwear dans la mode. Est-ce que ça annonce un déclin, Adrien Comarty ? Est-ce qu'on va revenir à des choses plus formelles, du vestiaire de ville ? Est-ce que le streetwear peut mourir ?
Oui, alors effectivement, beaucoup de commentateurs ont déjà acté la mort de ce qu'on appelle streetwear. Et sans doute, on arrive à un moment où il est moins attractif qu'il y a 5 ans ou 7 ans. Donc ça, je pense que c'est clair. Même quand on regarde là, le marché secondaire, alors on sort un peu de la haute mode, mais le marché secondaire et la hype des sneakers, à mon avis, est plus faible qu'avant. Néanmoins, je ne crois pas que les sneakers vont disparaître. Je pense que ça, si on se situe dans un temps long, et on en parlait un peu tout à l'heure, ça participe sans doute d'un mouvement de sportisation de la silhouette, de silhouette de plus en plus confortable, même si on peut encore porter des pièces inconfortables. Mais en tout cas, si on prend l'évolution de la silhouette sur un siècle et demi, 2 siècles, je crois qu'on peut s'accorder sur le fait que les silhouettes deviennent de plus en plus légères, de plus en plus confortables.
Et souples.
Donc en ce sens-là, je crois pas que la sneakers disparaisse, quoi. Ça me semble quand même être un peu difficile à prévoir.
Elliot Cox.
Est-ce que le streetwear est mort ? Je pense pas. Il y a un truc de... Oui, ce sera pas le streetwear comme on s'imagine streetwear quand on dit « Oh, sweet basket, jogo ouais. » et hop, c'est bon, il a un look streetwear. C'est plus la logique du streetwear dans le sens... Chacun compose son look avec les éléments qu'il a, au point de même, comme on entendait dans l'extrait d'interview un peu plus tôt, où c'est juste qu'à aller personnaliser son lacet, et sa couleur, et sa taille, et truc. Ça va pas partir, et ça, je pense qu'au contraire, c'est une logique qui vient du streetwear et qui va se développer d'autant plus dans les années à venir, du fait que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique vis-à-vis de la mode, où il y a un intérêt beaucoup plus gros pour le vintage et les archives. Et justement, je suis très curieux de voir comment, dans les années à venir, cette logique de streetwear va se mixer avec ce nouvel intérêt pour tout ce qui a déjà été fait, justement. Donc, pour étendre sur qu'est-ce que c'est que le futur de la sneaker, je suis curieux de voir comment, justement, on va venir sûrement puiser beaucoup dans tout ce qu'on a déjà en stock pour proposer peut-être de nouvelles choses et mixer ça avec, justement, des nouvelles technos comme, par exemple, de l'impression 3D. Je pense que personnellement, je pense que ça va être le prochain gros tournant, c'est cette nouvelle techno. Ouais.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que le label streetwear, au fond, on a du mal à voir à quoi il est renvoyé. Donc bon, il y aura aussi un travail de définition à faire avec ce terme.
On n'a plus le temps, mais vous reviendrez en parler. Merci beaucoup, Adrien Comarty. Merci. Elliot Cox.
Merci à vous.
Merci à Laurence Millet, qui a réalisé cette émission, à Audrey Carme et à Lilou Maupetit, qui ont aidé à la préparer. Merci aussi à Jean-Guilain Meige et Ruben Carmazine. Aujourd'hui à la technique, c'était Anthony Thomasson. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les autres vêtements qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.